aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art.
5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.
Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre.
Un mandat tranquille au Centre d'art contemporain de Meymac du 9 juillet au 15 octobre.
L'intranquillité, c'est quoi ?
Jean-Paul Blanchet, président du Centre d'art contemporain de Meymac.
On rêve tous d'un monde paisible. En fait, on rêve tous un peu d'un paradis. C'est un peu ça qu'on a tous un peu dans la tête. Et on essaie de faire que sur Terre, on vive quelque chose qui soit sans accident, sans heurts, sans violence, sans rupture. Bon. Et ce qu'il apparaît depuis déjà maintenant plusieurs décennies, mais qui s'accentue, il y a une défiance vis-à-vis de la science, une défiance vis-à-vis du progrès, qui est peut-être un effet justement d'un hyper-développement et d'une accélération de ces technologies de rupture. C'est que quelque chose qui est en fait assez ordinaire au départ, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a tous un petit peu peur de la nature. Trouvons-nous la nuit dans une forêt, sur un sentier, dans le noir, et on ne se sent pas tranquille. Hein. On ne se sent pas tranquille, on a un peu peur des loups. Ce sentiment-là, il s'est un petit peu développé parce que le monde a bougé tellement vite et il y a eu tellement de ruptures et tellement de fragilisation à tous les niveaux, social, économique, culturel, etc., qu'on ne se sent plus tranquille. Tout d'un coup, ce qui, dans l'idée de progrès qu'il y avait avant, qui nous projetait dans un avenir positif, on avait jusqu'à une époque, disons, sur les années 70, une pensée positive, relativement confiante à l'avenir. Cette pensée positive s'est effacée. Et donc, cette intranquillité sous-jacente est remontée, d'autant plus fortement que la perception des défis s'est accentuée et que les défis eux-mêmes se sont accentués.
Série Freerider, série Guerre de tribus, série Spirit House, Léa Le Briconte.
Je travaille beaucoup à partir d'éléments de guerre que je collectionne un petit peu de tous les conflits, toutes les époques. Je cherche à récupérer un maximum d'objets guerriers et que j'accumule et je réalise des sculptures à partir de ces éléments. J'essaye un petit peu de les transmuter en d'autres choses et souvent leur donner un aspect spirituel, comme dans les œuvres qui sont exposées dans cette exposition. Vous avez une pièce qui s'appelle Spirit House, qui est une petite maison fabriquée entièrement en éléments d'armes à feu, en balles, en petits obus, en missiles. Toutes les armes sont issues de vrais conflits réels. Je ne travaille jamais avec des faux objets, donc ils sont très chargés autant de façon simple que de façon symbolique. Je suis rentrée au Beaux-Arts de Dijon, je suis partie ensuite au Beaux-Arts de Caen. Et c'est là que tout mon travail lié à la guerre a commencé, parce que j'ai vraiment remarqué tous les stigmates de la guerre qui sont encore très présentes là-bas. Et j'ai pu récupérer beaucoup d'éléments grâce à des démineurs, beaucoup de balles neutralisées. C'est un petit peu là-bas que j'ai eu mon choc lié à ces zones guerrières. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette idée de comment se procurer ces matériaux aujourd'hui. Sont-ils encore dangereux? On a le droit de les avoir chez soi, mais on n'a pas le droit de les envoyer ou de les transporter. Je travaille beaucoup aussi par Internet. J'ai développé toute une stratégie, notamment en adoptant des pseudos masculins sur des sites militaria, de collectionneurs. Ce qui est très intéressant, c'est que je les reçois par la poste. Je reçois notamment beaucoup de matériel de Pologne, de pays de l'Est, etc. Disons qu'on est à une frontière. C'est des objets qui ne sont pas dangereux, puisque de collections anciens ou toujours déminés, c'est que des objets au potentiel dangereux qui sont réactivés dans le champ de l'art. C'est vrai qu'il y a un contexte de peur depuis quelques années lié au terrorisme et à tous ces conflits. Donc je me nourris vraiment de toute cette actualité pour essayer de transmuter ces matériaux en d'autres choses, d'autres propositions, essayer de créer un fort décalage.
Steel Ghost, Crossroad, Thomas Ivernel. les deux peintures qui sont dans l'exposition, qui sont des vues de nuit urbaine, une qui représente la Défense et l'autre qui représente un carrefour vers la gare du Nord. Ce sont deux peintures assez particulières parce que on voit plusieurs points de vue perspectifs en même temps, ce qui n'est pas possible dans la réalité. C'est comme si tu regardais en l'air, au milieu et en bas en même temps. C'est ce qui fait un peu le côté peut-être un peu vertigineux des peintures que je présente ici. J'ai été très très marqué par le cinéma et il y a un mouvement de va-et-vient comme ça qui se fait. Je pense qu'on peut voir des influences dans mon travail comme peut-être Hopper ou... Et Hopper a influencé Hitchcock, voilà, avec Fenêtre sur cour, et bien évidemment c'est un dialogue qui est fécond et qu'on peut toujours explorer. La nuit, il y a une sorte d'abstraction qui se fait, c'est ça qui m'intéresse dans le travail que je fais sur les nocturnes, c'est que ça peut être très réaliste et en même temps il y a une sorte de mystère dû à la nuit où les choses disparaissent, apparaissent, les lumières ne réagissent pas de la même façon, c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est des lumières artificielles, contrairement à la journée. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu irréel et presque d'un peu théâtral, quoi. Le tableau de la Défense s'appelle Steel Ghost, ce qui veut dire fantôme de métal. Et en fait, il y a un côté énigmatique, plus énigmatique, quand il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de... Ça a presque un côté fin du monde qui m'intéresse, moi. Et c'est pour ça que j'ai plutôt choisi... une vue avec vidée de toute présence humaine, en fait, que ce soit les voitures ou les gens qui marchent. Je pense que l'inquiétude collective me semble assez bien trouvée. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose dans l'urbanisme contemporain qui induit une solitude et presque une inquiétude. On est dans ce grand décor comme ça et on est seul, quoi.
L'exposition est conçue dès l'origine, au fond, comme le développement d'une histoire.
Caroline Bissière, directrice du Centre d'art contemporain de MEMAC.
Elle s'organise effectivement en chapitres, avec en général, à l'entrée de l'exposition, un espace qui peut être qualifié d'introduction et la plupart du temps, à la pointe, c'est-à-dire au point d'orgue final de l'exposition, une proposition qui est un peu la synthèse de l'ensemble et qui a le format d'une conclusion.
La thématique, elle a fatalement plusieurs directions. La tranquillité, elle est soit sur la vie quotidienne, soit sur le social, soit le rapport à la nature. Ça fournit les thèmes des différents chapitres et à l'intérieur, les œuvres sont regroupées par affinité. Il y a en fait deux acteurs majeurs de compréhension du monde. Il y a les savants et les artistes. Les savants sont dans le domaine du rationnel, les artistes sont dans le domaine du subjectif, mais les artistes nous permettent de ressentir fortement le monde dans lequel on vit, en deçà ou au-delà des explications qu'on peut donner.
Waiting for Him, 1 et 5, Mathilde Troussard.
Je ne suis pas du tout dans le courant de la photographie documentaire ou prise sur le vif. Moi, ce que j'aime, c'est la photographie tableau, c'est-à-dire que c'est une photographie qui est pensée en avance. Ce que j'aime, c'est souvent trouver des lieux abandonnés ou des lieux qui ont une âme, qui sont vraiment poétiques. Et j'écris mes scénarios, je réfléchis au stylisme, je choisis mon modèle, la lumière, les accessoires. Donc c'est vraiment une mise en scène globale. La série qui est présentée ici pour l'exposition. Ce sont deux photographies qui sont extraites d'une série qui s'appelle Waiting for Him. Ça veut dire en l'attendant, c'est l'attente du prince charmant. Ce qu'il y a de très drôle, c'est que je joue avec cette figure du prince charmant. Je me suis vraiment inspirée d'un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann qui a écrit un livre qui s'appelle La jeune fille seule et la figure du prince charmant. Il a recueilli plein de témoignages de femmes célibataires et il explique en fait que l'image du prince charmant hante le rêve de toutes les jeunes filles. On a été élevés avec ces contes de fées où nos mamans nous berçaient le soir en disant « Il faut que tu attendes le prince charmant ». Et en fait, la femme moderne est tiraillée entre cette espèce de rêve encore d'attendre le prince charmant qui va la sauver, parce qu'en fait, il y a aussi ça derrière l'idée du prince charmant, c'est mettre la femme dans une position d'attente, de passivité et du syndrome du sauveur, de l'homme qui va arriver par magie, qui va faire « waouh ». Et dans mon travail, moi, j'en rigole de ça. Le problème aussi du prince charmant, c'est que ça met une pression parce qu'il y a une attente. L'attente génère des fantasmes et des choses qui sont irréelles et qui font que de toute manière, si la femme elle continue d'attendre le prince charmant, elle va être déçue. J'adore les ciels nuageux. Je n'aime pas du tout les ciels bleus sans nuances. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de richesse et de profondeur dans un ciel qui est nuageux. Parce que je dis toujours, en fait, moi, mes mises en scène, j'appelle ça des fictions empruntées au réel. C'est-à-dire que je pars de sentiments humains, mais j'aime beaucoup réaliser des fictions dans le sens que ce qui m'intéresse, c'est que chaque spectateur peut imaginer sa propre histoire. Donc je mets en place des choses. Moi, j'ai mon histoire personnelle qui me conditionne dans l'écriture de mes scénarios, mais chacun, en fonction de son vécu, va se raconter sa propre histoire par rapport à la scène. Et ces ciels nuageux, pour certaines personnes, ça peut donner quelque chose d'un peu étrange ou inquiétant par rapport à la scène, qui permet aussi de se détacher du côté cliché carte postale, parce que le ciel bleu, c'est comme un coucher de soleil, c'est un côté très cliché, stéréotype, alors que là, ces nuages amènent quelque chose, enfin moi en tout cas, je le vois comme quelque chose de peut-être un peu inquiétant. En même temps, les nuages, ils bougent. Pour moi, les plus belles lumières, c'est quand il a plu et qu'après, il y a une éclaircie. Ces nuages participent vraiment à la scène. Et j'adore ces ciels-là. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir été sélectionnée pour cette exposition. Quand j'ai lu le synopsis, je trouvais ça vraiment passionnant et je trouve que toutes les photos exposées sont vraiment très très belles. Et je trouve ça effectivement très rigolo, le fait qu'il y ait ce contraste entre ce côté paisible et intranquille, parce que je pense que dans mes images, je suis sur plusieurs niveaux et que je joue sur ça.
Night Fountain, Chicago Morning by the Track, Katharina Zimke.
On voit des personnages dans un parc qui marchent dans une fontaine avec des spectateurs qui regardent la scène et on regarde. C'est un double regard parce qu'on regarde aussi les spectateurs qui regardent. Donc, on se demande pourquoi les gens sont dans cette fontaine, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Les gens autour qui sont vraiment attentifs, comme si quelque chose allait se passer, mais on ne sait pas trop quoi. Le tout dans un paysage assez sombre, ça pourrait être dans la nuit. Une sorte de scène étrange, rituel, pourquoi pas. L'inquiétude collective, ouais, c'est quelque chose qu'on peut tous partager. La preuve, c'est que beaucoup de gens trouvent cette œuvre inquiétante. En Allemagne, on fait pas mal cette technique au jardin d'enfance et on met le crayon, c'est comme un pastel gras en fait, en couleur, des aplats de couleur, et après on couvre avec du pastel gras noir et on gratte et ça fait apparaître la couleur qui est en dessous et ça a un côté très lumineux, comme si c'était illuminé de l'intérieur. Le grattage est très maîtrisé, mais ce qui est en dessous n'est plus du tout maîtrisé parce que je ne sais plus quelle couleur se trouve à quel endroit. Donc du coup, c'est le hasard qui influence complètement le résultat à la fin. Il y avait une autre œuvre que j'aimais beaucoup ici. Celle-là, je crois qu'elle pourrait avoir un rapport plus proche, plus direct avec mon œuvre parce qu'il y a une lumière, on voit que c'est en pleine lumière, mais il y a cette noirceur qui ronge l'image. C'est comme si c'était surexposé et sous-exposé en même temps et je trouve ça vraiment très beau et très inquiétant.
La volonté de chacun, c'est de vivre dans un monde paisible. Voilà, c'est ce que je disais au début. Mais la réalité, c'est que ce paisible, il faut se battre en permanence. Pour essayer de maintenir cette sensation, c'est que le bonheur, c'est quelque chose de très éphémère. En réalité, le monde est relativement hostile. Ce qui nous entoure, que ce soit la société humaine, le monde animal, la nature au sens plein, les montagnes, les orages, etc. C'est un monde dans lequel il faut s'insérer, trouver sa place, et ce n'est jamais tranquille. Et aujourd'hui, nous avons l'impression d'être dans une société très développée, et en fait, derrière ça, et peut-être parce qu'on a perdu un certain nombre de contacts premiers avec ce qui nous entoure, il y a un sentiment diffus d'intranquillité, parce que face à ces menaces naturelles, on ne sait plus très bien comment faire. On n'a plus de réponse, qui étaient des réponses que je dirais, en partie ritualisée que nous avions. Et ça, c'est très déstabilisant. C'est pour ça que ça commence par un monde si paisible, avec un petit point d'interrogation implicite, hein, ou un point d'exclamation qui en dénonce l'excès. C'est qu'on veut croire que le monde est paisible, et ça finit par une nature qui est une nature relativement intranquille, hein, voilà, parce qu'elle est pleine de menaces. Hein, les feux de forêt en Californie, les tremblements de terre, les ouragans qui se multiplient. C'est là notre situation. On est de plus en plus tendu entre l'impression d'un monde que l'on voudrait absolument totalement maîtriser, où il n'y a plus de famille, il n'y a plus de ceci, etc. Et en fait, des menaces qui sont en même temps de plus en plus difficiles qu'on les croit pratiquement surannées et obsolètes. Et en fait, non, elles le sont là. Hein. La nature, elle ne l'a pas changé beaucoup. Et on en voit les effets. Et l'écart que nous avons dans les grandes métropoles, les grandes concentrations humaines, et les inondations, les rébellions de la nature, font qu'on va se trouver de plus en plus avec des drames qui vont être assez importants. Et les gens le savent bien, confusément. C'est un décalage qui s'accentue entre une vie de plus en plus paisible et un monde de plus en plus inconnu.
Un monde intranquille au Centre d'art contemporain de Meymac, du 9 juillet au 15 octobre.
5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.